France Inter, le 18-20.
Une semaine en France avec François Miquet-Marty, le président de l'Institut de sondage et d'études Via Voice, à deux jours du second tour de la présidentielle. François Miquet-Marty, auteur il y a bien des années déjà d'un ouvrage intitulé « Les oubliés de la démocratie ». Des oubliés qui sont peut-être en train de se rappeler au bon souvenir des politiques aujourd'hui, que ce soit à travers l'abstention, le vote blanc ou le vote protestataire. On y reviendra dans la première partie de cette émission en détaillant les résultats du premier tour. Ils nous en apprennent beaucoup sur la sociologie et la géographie de l'électorat de Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron. Ensuite, dans un second temps, on s'arrêtera sur la campagne de l'entre-deux-tours qui s'achève ce soir. Une campagne marquée par des conversions et des ajustements. Conversion à l'écologie pour Emmanuel Macron.
La politique que je mènerai dans les 5 ans à venir sera donc écologique ou ne sera pas.
Hésitation sur le voile pour Marine Le Pen qui ne sait plus très bien si elle veut l'interdire ou pas.
Alors je ne sais pas.
On reviendra bien sûr sur le fameux débat de mercredi pour lequel la sémiologue Mariette Darigrand nous rejoindra. Également au sommaire de cette émission préparée par Irène Menahem et réalisée par Juliette Gou, la chronique de Vincent Martini, professeur de sciences politiques et chroniqueur à l'Hebdo Le 1. Ce soir, l'illusion des deux France. À 19h, le journal d'Hélène Filly. À 19h20, au téléphone sonne. Quel remède à notre fatigue démocratique? D'autres modèles sont-ils possibles? On en parle au 01 45 24 7000. D'avance, merci à nos standardistes qui attendent vos appels, à Magdalena Hervada qui surveille vos mails, ainsi merci aussi à Loïc Frapsos, Ludovic Asselot et Louis Audebert qui sont à la technique.
Claire Servageant. Une semaine en France.
Bonsoir et bienvenue sur France Inter, François Miquet-Marty.
Bonsoir, merci
d'être
à vous.
À deux jours du second tour. Alors pour l'instant, tous les sondages de tous les instituts mettent Emmanuel Macron en tête des intentions de vote. Je ne crois pas que vous ayez refait vous-même d'études entre les deux tours chez Via Voice, mais globalement, donc les sondages vont tous dans le même sens. Pour certains même, l'écart s'est creusé entre les deux candidats. Est-ce que ça veut dire que la messe est dite ?
On ne peut jamais dire que la messe est dite, puisque à la différence du scrutin de 2017, les scores sont plus serrés. Dans certains sondages qui sont parus aujourd'hui, d'ailleurs, on est à 53-47. Donc, en effet, la dynamique d'ensemble est celle d'une divergence, puisqu'on était plutôt autour de 49-48 contre 51-52 immédiatement après le premier tour. Et puis, en effet, il y a une distanciation. L'un des éléments intéressants est l'impact du débat de mercredi, qui finalement non seulement n'a pas bouleversé la donne, mais au contraire, lorsqu'on regarde l'ensemble des travaux qui ont été réalisés depuis, ça montre soit une stabilité globale ou une légère tendance en faveur d'Emmanuel Macron, mais au fond, la dynamique qui avait été enclenchée avant n'a pas été brisée. Voilà. Ensuite, on sait, bien sûr, la part des abstentionnistes, la part des indécis. On a encore aujourd'hui 8% des personnes ayant l'intention d'aller voter dimanche pour ce second tour qui se demandent véritablement pour qui elles vont aller voter. Et puis, ce qu'on constate quand même au cours de ces... Alors, je vous fais grâce de toutes les données, mais au cours de ces 10 jours d'entre-deux tours qu'on vient de vivre, c'est des fluctuations d'électorat qui sont passées d'un candidat de premier tour à un autre candidat de second tour, des reculs. Au fond,
ça, c'est
beaucoup
chose
de fluidité électorale.
C'est nouveau, ça, ou pas?
Alors, c'est pas nouveau au sens où ce serait apparu là lors de cette présidentielle, mais on est véritablement sur un changement, une mutation des comportements électoraux, parce que on pourrait parler quasiment de démocratie de plus en plus fluide. Il y a un auteur, un sociologue qui avait parlé d'une société fluide il y a quelques années, parce que d'une part le rôle des partis politiques, on l'a vu pendant cette présidentielle de manière manifeste, s'est érodé, et puis surtout, on a des affiliations, des sentiments d'identité politique qui sont de moins en moins prégnants. Donc on a en effet une partie des électeurs, pas tous bien entendu, mais qui sont prêts beaucoup plus que par le passé à évoluer au gré d'une déclaration, d'une prise de position, d'une thématique annoncée par un candidat ou par une candidate. Donc on voit bien que le jeu est beaucoup plus fluide aujourd'hui qu'il ne l'était il y a quelques années.
Alors il y a ceux qui peuvent changer d'avis entre le premier et le deuxième tour, et puis il y a peut-être aussi ceux qui se sont abstenus et qui pourraient se décider. 26% d'abstention au premier tour, c'est à prendre en compte?
Bien sûr, c'est à prendre en compte. Et on voit aujourd'hui, alors c'est l'un des éléments qui illustre précisément ce que l'on vient de dire précédemment, à savoir que parmi ces abstentionnistes, on a aujourd'hui plus de 10% du premier tour qui déclarent pour les uns avoir l'intention de voter pour Emmanuel Macron, pour les autres avoir l'intention de voter pour Marine Le Pen. Ça veut dire que ça n'est pas parce qu'on est abstentionniste au premier tour qu'on est nécessairement abstentionniste au second tour. Donc en effet, on est sur des jeux d'évolution, d'adaptation qui sont beaucoup plus importants qu'ils ne pouvaient l'être par le passé.
Il y a eu les abstentionnistes, il y a eu aussi 800 000 bulletin blanc et nul, c'est aussi quelque chose à prendre en compte, c'est un signe.
Bien sûr, alors on en parle souvent, en regrettant d'ailleurs souvent que ces bulletins blancs et nuls ne soient pas davantage pris en compte, y compris d'ailleurs dans la manière d'en parler. Donc merci d'en parler aujourd'hui, puisque au-delà des comptes officiels, c'est important. Ça fait partie, bien entendu, des éléments de désaffection. Pas uniquement d'ailleurs par rapport à l'offre électorale, mais aussi par rapport au fonctionnement démocratique. Juste un chiffre, je ne vais pas vous lasser, mais on a aujourd'hui 68% des Français qui déclarent ressentir de l'amertume ou de l'insatisfaction dans le cadre de cette élection présidentielle. En allant même un cran plus loin, on pourrait parler d'un véritable ressentiment démocratique. C'est l'un d'ailleurs des paradoxes très, très puissants de cette élection qu'on est en train de vivre. À la fois une élection qui, de manière formelle, se déroule relativement normalement. On a eu quand même, vous le rappeliez, 74% de participation au premier tour, on a un premier tour, un second tour, tout ça va à peu près bien, mais on a, je crois que le terme de fatigue démocratique qu'on utilise ici est très juste, parce que le sentiment au fond d'abord d'une campagne qui n'a pas véritablement fait son office, hein, on a, tenons-nous bien, 54% des Français aujourd'hui qui estiment que la campagne, notamment de premier tour mais aussi souvent, n'a pas véritablement eu lieu, donc plus de la moitié des Français. Donc ça veut dire que le débat n'est pas allé à son terme, ça veut dire que les confrontations d'idées, de visions ne sont pas allées à leur terme, donc on voit bien une vitalité démocratique qui fait défaut. Donc formellement, pour dire les choses simplement, ça fonctionne à peu près correctement, mais on voit bien l'ampleur des ressentiments, des fatigues, des incertitudes, parfois des exils démocratiques. Vous parliez tout à l'heure des votes blancs et nuls, c'est exactement l'une des illustrations, il y en a beaucoup, hein, mais c'est l'une des illustrations très concrètes de ces phénomènes-là.
Alors, on va revenir, François-Mickey Marty, en détail maintenant, sur les clivages qui sont apparus lors du premier tour de scrutin, parce que vous avez fait une grande enquête à ce sujet, et c'est pas inintéressant. Vous avez noté qu'il y avait en tout cas un clivage entre les générations, et ça c'est important. On va commencer par les plus jeunes, les 18-24 ans. Alors, avant tout, c'est l'abstention, hein, je crois, chez oui. Les plus jeunes. Hein, oui. Ça, c'est notable. Et ensuite, cette tranche d'âge a choisi avant tout Jean-Luc Mélenchon.
Oui, c'est très juste. Alors, en effet, vous avez raison d'insister sur, je vais me permettre un commentaire sur la question, d'insister sur ces éléments, parce qu'on a tendance à considérer que ce qui détermine les choses, et ça joue de manière encore manifeste, bien entendu, hein, c'est l'opposition entre une France qui irait bien contre une France qui n'irait pas bien, en gros la France d'en haut contre la France d'en bas. C'est pas faux, mais il n'y a pas que ça, et je crois que c'est l'intérêt de réflexion que vous menez là. Alors, les données que vous citez sont extraites d'une étude post-électorale réalisée par Via Voice pour Libération. En effet, les 18-24 ans se sont portés à 35% en faveur de Jean-Luc Mélenchon. Donc, on voit bien, alors il fait 22% au niveau global, donc l'écart est quand même extrêmement significatif. Donc, on voit bien à la fois, c'est pas uniquement d'ailleurs du vote de contestation, parfois du vote de contestation aux protestataires, non. Il y a aussi des véritables convictions, des véritables aspirations, on pense bien entendu à la question climatique, les injustices sociales aussi qui sont très portées par les jeunes, et puis on le néglige trop souvent, la question du pouvoir d'achat, qui à propos desquels Jean-Luc Mélenchon a fait des propositions, c'est vrai aussi en partie pour Marine Le Pen, mais dans une moindre mesure auprès des jeunes. Donc on voit bien qu'il y a un véritable clivage générationnel, par opposition, je devance peut-être votre question suivante, pardon, mais les retraités, les 65 ans et plus, ont voté pour Emmanuel Macron à 38%. Donc on voit au fond ces deux extrêmes en termes générationnels, tout au moins, entre les deux on a Marine Le Pen, mais il y a véritablement un clivage générationnel qui est même plus fort en termes de pourcentage, en termes statistiques, que le clivage des catégories sociales auxquelles on appartient.
Alors quand même une question sur, toujours chez les jeunes, mais un tout petit peu moins jeunes, les 25-34, là ça bascule en faveur de Marine Le Pen. Est-ce que, pourquoi une telle bascule à 25 ans? Il y a une façon de l'expliquer? C'est l'âge d'entrée dans la vie active?
Alors exactement, il n'y a pas une façon bien entendu, mais il y a un faisceau de facteurs. Alors Marine Le Pen, en effet, 38% également des 25-34 ans qui ont voté pour Marine Le Pen. On voit bien, c'est très intéressant, une segmentation générationnelle très forte. Oui, l'entrée dans la vie active, des conditions de vie parfois difficiles, parce que des frais du quotidien, des dépenses à réaliser, une crainte qui est quand même extrêmement forte, exprimée de manière de plus en plus manifeste, élection après élection, sur l'avenir. C'est-à-dire, au fond, quand vous avez entre 25 et 34 ans, la question qui se pose, c'est la question pour l'avenir de vos enfants. Aujourd'hui, vous avez plus de 60% des Français qui sont inquiets pour l'avenir de leurs enfants. Donc on est dans un contexte où, quand vous avez entre 25 et 34 ans, il y a bien évidemment des enjeux du quotidien, des inquiétudes qui sont extrêmement fortes, et l'élément qui est très prégnant et qui je crois l'une de mes marottes, mais j'y tiens beaucoup parce qu'on le retrouve dans les données que l'on a là, un sentiment de ne pas être pris en compte pour une partie des familles, un sentiment d'abandon. On a aujourd'hui 65% des Français qui s'estiment abandonnés. Sur cette tranche d'âge-là, c'est encore plus important. Ça veut dire qu'on a un cumul de facteurs et de mal-être dans cette société qui, trouve une réponse qui est une réponse sur laquelle on adhère ou on n'adhère pas, bien entendu, mais enfin qui est une réponse assez pour ses électeurs à ses difficultés à la fois de vie quotidienne et de projection dans l'avenir.
Alors à propos de Marine Le Pen que vous évoquiez il y a un instant, elle a su surfer sur le mouvement des Gilets jaunes de 2018, mais enfin c'est une réalité du quinquennat. On va voir un exemple avec ce reportage d'Ajra Mohammad au Puy-en-Velay, qui a été réalisé au reportage au tout début de la semaine, je le précise. On se souvient de ce qui s'était passé lorsque des gilets jaunes avaient mis le feu à la préfecture de la Haute-Loire. Le président Macron s'était rendu sur place quelques jours plus tard. Le cortège présidentiel avait même été pris pour cible depuis. Et bien pour certains, la rancœur est toujours là.
Macron, dès que je le vois à la télé, j'étais à la télé. Alors, je peux pas, je peux plus.
Le président sortant cristallise toujours autant la colère de ces gilets jaunes.
Moi, vous savez, je suis paysan, donc je pars du principe qu'on récolte ce qu'on sème. Si vous voulez, ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que Macron a tellement peu respecté les gens que ça a fait péter les plombs à tout le monde. Hein. Quand il nous a parlé des gens qui sont des riens, des Gaulois réfractaires, faut peut-être arrêter.
À quoi ça a servi les gilets jaunes?
Quand on regarde aujourd'hui, ça a servi à rien. Et moi, pour moi, hein. Moi, je trouve que ça a servi à faire voir le côté réel de la personnalité de Macron, quand même. Oui. La répression, taper sur la gueule, parce que moi, j'avais été dans des manifs comme à Toulouse, comme à Béziers, Montpellier. Vous n'aviez pas le temps de bouger, ça chargeait. Et puis ici, à la fin, c'était pareil. Hein.
Alors, au second tour, ce dimanche, Michel, chauffeur routier, mettra le même bulletin dans l'urne qu'au premier tour.
J'ai voté pour Marine Le Pen. Moi, ce que je regarde, c'est qu'elle veut mettre le RIC, c'est-à-dire demander aux Français avant de faire quoi que ce soit. Donc déjà, ça, c'est un truc que
Les jeunes l'ont toujours demandé.
Exactement. Après, de baisser les taxes sur les produits de nécessité, le carburant, ça, c'est un truc qu'elle a dit qu'elle ferait le jour même.
Là, j'ai voté Jean Lassalle parce que je pense que c'est un gars qui aurait pu rassembler. Mais là, je vais voter Marine et sans état d'âme, quoi. Et j'espère qu'elle passera et que Macron dégagera.
Pourtant, au Puy-en-Velay, commune de 19 000 habitants, Marine Le Pen n'est arrivée que 3e le 10 avril, derrière Emmanuel Macron et derrière Jean-Luc Mélenchon, en tête dans le fief du LR Laurent Wauquiez. Djamila a voté pour l'insoumis. Cette ancienne gilet jaune qui fait le ménage et sert des repas dans un EHPAD suivra la consigne de son candidat du premier tour, tout sauf Le Pen.
Parce que vivre 5 ans avec Marine Le Pen, je pense que ce sera un peu plus pire qu'Emmanuel Macron. Je suis issue de l'immigration, voilà, ma mère elle a une carte de séjour, ma mère habite en HLM, ma mère porte le voile, donc c'est pas possible. C'est soit un bulletin Macron, soit un bulletin blanc. Je suis perdue, je sais pas, j'attends le débat.
Ce mercredi soir?
Oui, parce que moi ce qui me bloque le plus avec Macron, c'est la retraite à 65 ans. Il faut qu'il change sur ce statut-là.
Et si finalement, dimanche, elle vote Macron, ce sera en fermant les yeux, dit la jeune femme, et surtout en pensant très fort au troisième tour.
Je me suis dit, si Jean-Luc Mélenchon n'est pas élu, je déchire ma carte électorale. Je ne l'ai pas fait, parce que je vais voter pour l'Union populaire, pour les législatives. Et si on arrive à gagner ces élections-là, ce serait encore mieux que les présidentielles.
Voir la gauche prendre sa revanche aux législatives, Djamila en rêve, alors que Michel et Jérôme, eux, espèrent un doublé pour le Rassemblement national.
Voilà, Jean-Luc Mélenchon qui va passer très loin de la qualification. François-Mickey Marty, est-ce qu'on peut parler d'une tripartition du paysage politique?
Oui, on peut parler, bien sûr, au vu des résultats d'une tripartition du paysage politique, qui est en réalité l'approfondissement de ce qui a été engagé en 2017. Hein, on est sur un cycle de recomposition totale, qui est à la fois idéologique, qui est porté aussi par la présence d'Emmanuel Macron qui plaide pour des forces centrifuges en termes d'opposition. D'ailleurs, plus au fond, plus vous êtes à distance d'Emmanuel Macron et plus vous êtes légitime pour vous opposer. Et puis, je crois que ce qu'on a sous-estimé, qu'on évoquait rapidement tout à l'heure, qui est au fond l'érosion des formes habituelles de la politique et notamment des partis politiques traditionnels. Donc, vous avez un cumul de facteurs qui amplifie, prolonge la mutation engagée en 2017 et qui progressivement, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de démocratie beaucoup plus fluide, nous conduit à un autre type de démocratie. On voit bien dans la tripartition que vous évoquez l'importance des leaders, c'est-à-dire leur charisme, leur popularité. C'est vrai pour Jean-Luc Mélenchon, c'est vrai pour Marine Le Pen, c'est vrai pour Emmanuel Macron. Mais aujourd'hui, au fond, cette dimension d'incarnation, elle est d'autant plus importante que les structures habituelles de la politique ont tendance à s'éroder, c'est un euphémisme. Et puis par ailleurs, en plus, il y a des facteurs de mobilisation en faveur du vote qui sont eux-mêmes de plus en plus fluides. On n'a pas encore parlé des émotions. Mais dans une campagne comme celle-ci, les émotions sont de plus en plus importantes. Et donc, vous pouvez attirer sur un leader ou un autre, au-delà bien entendu des convictions et des valeurs des uns et des autres, 50% aujourd'hui des Français disent que leurs émotions sont fondamentales dans leurs orientations de vote. Vous voyez ? Donc, on est véritablement, pas uniquement, j'allais dire, sur une nouvelle répartition du paysage politique, mais on est véritablement sur quasiment un nouvel âge de la manière de faire de la politique. J'ose pas parler d'âge démocratique, parce que les règles du jeu sont stabilisées, mais un nouvel âge, une nouvelle manière de faire la politique.
Et à propos des émotions, on va voir qu'effectivement, dans la campagne de l'entre-deux-tours, il en a beaucoup été question, il y a eu le débat. On va revenir sur tout ça dans un instant. Mais d'abord, retour sur l'actualité de la semaine, grâce à ce mix qui a été mis en onde par Anne-Cécile Perrin. On commence avec les rassemblements du week-end dernier.
Macron ou Le Pen, c'est la même chose. Ce qui compte, c'est d'être mobilisé dans la rue. Moi, j'ai gardé un bulletin Mélenchon et on va remettre le bulletin Mélenchon dimanche.
Des manifestations samedi pour dire non à l'extrême droite et à un deuxième tour sans la gauche. Réaction de Marine Le Pen.
Qu'il y ait des gens en France qui manifestent contre les élections. C'est quand même quelque chose d'assez étonnant.
Étonnant et même bientôt interdit si elle est élue. Car dans ce cas, elle l'a bien dit, on ne manifestera pas contre le résultat d'un référendum, par exemple. Alors, même chez les ninis, on commence à réfléchir.
Je pense que le lendemain de l'élection, on était tous en mode jamais une voix pour Macron. Et là, tout le monde est en train de se poser des vraies questions.
Des questions et des revendications.
S'il souhaite pouvoir être réélu, il sait ce à quoi peuvent être attachés les électeurs de Jean-Luc Mélenchon. La question de la retraite, la question du pouvoir d'achat, la question de l'écologie.
Bingo ! Au même moment à Marseille, le président candidat entend le message.
La politique que je mènerai dans les 5 ans à venir sera donc écologique ou ne sera pas.
Plus vert que moi, tu meurs.
Et donc, mon prochain Premier ministre sera directement chargé de la planification écologique.
Il avait 5 ans pour agir, il ne l'a pas fait, donc il n'y a aucune raison de croire véritablement en ses promesses.
Julien Bayou, secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts.
Et pour autant, j'utiliserai le bulletin Macron pour battre l'extrême droite.
Rien n'est joué, et jusqu'au dernier moment, rien ne sera joué.
Et pour une fois, Jean Castex est d'accord avec Louis Alliot.
Rien n'est joué, la politique de Mme Le Pen serait dramatique pour notre pays.
La colère contre tous ces hommes politiques qui nous disent il faut faire barrage à Marine Le Pen. Moi, je ne me vois pas travailler jusqu'à 65 ans.
On a tout essayé, la droite, la gauche, pourquoi pas elle ?
Moi, je ne veux pas que Mme Le Pen prenne le pays et je ne veux pas que M. Macron garde le pouvoir.
Jean-Luc Mélenchon ou l'art du rebond ?
Je demande aux Français de m'élire Premier ministre.
Comment ça ?
D'élire une majorité de députés insoumis.
Ok, mais ça, ce sera en juin, aux législatives. D'abord, il y a le deuxième tour de la présidentielle et une campagne sans concession entre les deux candidats.
Moi, j'ai toujours été au contact pour comprendre, pour me frotter. La candidate d'extrême droite se planque du peuple.
Disons plutôt qu'elle choisit ses déplacements.
Je suis arrivée en tête dans 22 000 communes sur 34 000. C'est quand même assez naturel qu'on ne les laisse pas de côté, non ?
Pourquoi vous l'appelez Tata ?
Je pense, c'est parce que c'est une maman, je pense.
Mais les mamans, ça peut aussi déstabiliser parfois. Comme sur la question du voile, Marine Le Pen a dû ajuster son discours cette semaine.
Je ne suis pas insensible, moi, au discours de cette vieille dame qui me dit « Mais moi, je le porte parce que je suis une personne âgée. »
Au point de ne plus savoir si elle veut vraiment l'interdire ou pas dans l'espace public. Alors, on fait quoi, finalement ?
Alors, non, je ne sais pas.
C'est sûr que dans la vraie vie, c'est plus compliqué que ça. À la rubrique « Profil bas », le président candidat n'est pas en reste.
J'ai eu des phrases très maladroites.
Oh, à ce point ?
Et des phrases très souvent décontextualisées.
Ah, c'est vrai, c'est plutôt ça. Pas facile tous les jours d'être président.
Et ceux qui m'aident à vivre, ce sont les poètes. Je lis de la poésie tous les jours et ce sont eux qui m'aident à vivre.
Il n'y a plus de cauchemar, douce insomnie perpétuelle. Il n'y a plus d'aversion que la pose d'un bal dont l'entrée est partout dans les nuées du ciel.
Alors René Char, il paraît que le président en raffole. Encore un grand merci à Anne-Cécile Perrin. Une semaine en France en compagnie du président de l'Institut Via Voice, François-Mickey Martin. Dans un instant, la sémiologue Mariette Darry-Grand nous rejoindra, ainsi que Vincent Martini pour sa chronique Jeux de pouvoir. Mais peut-être un mot, François-Mickey Martin, sur ces ajustements auxquels on assiste là sur le voile du côté de Marine Le Pen, sur l'écologie du côté d'Emmanuel Macron. C'est pas évident, hein ?
C'est pas évident. Alors, il y a deux manières de le de le voir. Je pense que ça correspond à des tentatives que l'on imagine bien d'essayer de conquérir différents électorats ou de ne pas en froisser d'autres pendant cet entre-deux-tours, puisqu'au fond, il faut élargir la base et puis fédérer de plus en plus, etc. Ça traduit aussi, de manière peut-être un petit peu plus critique, au fond, d'étranges aléas sur des fondamentaux, qui sont des fondamentaux de vision pour le pays, pour la France, etc. Et je trouve que ça fait écho à ce que l'on disait tout à l'heure. Je vais vous donner quelques chiffres qui font beaucoup réfléchir, puisqu'on a réalisé ce sondage après le premier tour. Donc, le premier tour ayant eu lieu, on a aujourd'hui 59% des Français qui se disent préoccupés pour l'avenir. C'est ce qu'on leur demande, leur état d'esprit. Ils sont d'abord préoccupés. Ensuite, deuxième sentiment, deuxième état d'esprit, ils sont désenchantés à 33%, puis révoltés 22%. Alors, je vous rassure, si l'on peut dire, il y a des réponses positives qui arrivent en dessous. Il y a de la confiance, de l'optimisme à 11%. Bon. Mais ça veut dire quoi tout ça? Ça veut dire que c'est une élection qui n'a pas rempli son office. Voyez, il y a un critère très simple que je trouve assez intéressant. Lors de l'ensemble des précédentes élections présidentielles, c'était très vrai notamment en 2007, ça l'était en 2012 et en 2017 aussi, les élections étaient génératrices d'espoir, c'est-à-dire au fond de perspectives d'avenir. Là, on a connu une période exceptionnelle à tous égards, la pandémie, la guerre en Ukraine. On a des Français qui se déclarent, pour la plupart d'entre eux, fatigués et en même temps inquiets pour l'avenir, avec un sentiment très fort d'incompréhension. Eh bien non, cette présidentielle que l'on est en train de vivre, pas pour tout le monde bien entendu, mais quand même pour la plupart des gens, n'a recréé ni espoir, ni enthousiasme, ni confiance, etc., de la part de quelques candidats que ce soit.
Et peut-être que la campagne a été hors sujet aussi, puisque...
La campagne n'a pas...
Question essentielle, le pouvoir d'achat, on a parlé de tout sauf de ça, et si on en a parlé, mais à la fin.
Oui, alors, vous avez en effet les citoyennes et citoyens qui estiment que leur sujet de prédilection n'a pas été traité, celles et ceux qui estiment que les réponses... 75% des gens les disent, les réponses que l'on a entendues aujourd'hui, les propositions dans ce débat démocratique, ne sont pas à la hauteur, n'apportent pas véritablement des éléments satisfaisants pour être rassurés sur l'avenir. On a un pays qui est très inquiet sur l'avenir. Donc ça est inquiétant parce que ça dessine une France qui voit cette élection présidentielle se dérouler. Nous allons faire le deuxième tour, tout va à peu près bien, sauf que cette élection ne remplit pas l'office pour lequel elle existe, qui est au fond de dessiner des perspectives d'avenir, d'entraîner, de mobiliser, etc. Donc on peut dire, pour dire les choses un peu de manière encore plus crue, que les difficultés, les craintes, les inquiétudes sont toujours présentes et seront probablement présentes, quelle que soit la candidate ou le candidat qui soit élu dimanche. Donc c'est une élection, pour dire les choses encore plus trivialement, qui n'a pas fonctionné. De manière générale.
France Inter, le 18-20, une semaine en France.
C'est l'heure de la chronique de Vincent Martini, professeur de sciences politiques à Polytechnique et à l'Université de Nice. Bonsoir Vincent.
Bonsoir Claire, bonsoir à tous.
Je précise qu'on lira votre chronique Jeu de pouvoir dans l'application de l'Hebdo Le 1 demain.
Ce soir exceptionnellement, à cause des délais avant le temps de vote de dimanche.
Et à la radio c'est toujours plus tôt, c'est ça qui est formidable. Alors cette chronique en tout cas vous nous en donnez un avant-goût dès maintenant. Ce soir c'est le mythe des deux France. Vous allez nous donner une image pour parler des deux France qui s'oppose dimanche, qui ne rend pas forcément justice, selon vous, à la complexité de notre vie politique.
Absolument, Claire. Ce choc des deux France est au cœur de toutes les analyses, comme on vient de le voir en partie avec votre invité qui l'a d'ailleurs commencé à la contester. Et vous le rappeliez avec lui, on est cette année dans un cas d'école avec un Emmanuel Macron qui attire plutôt un électorat aisé, tendanciellement plus diplômé, plus âgé, alors que Marine Le Pen, elle, apparaît comme le refuge des catégories populaires, drainant près de 70% du vote ouvrier. Sauf que cette distinction est plus complexe, comme on a commencé à le dire, qu'il n'y paraît, et qu'elle ne rend pas justice aux divisions politiques réelles de notre pays.
Que voulez-vous dire?
Eh bien, avant tout que les deux France du second tour ne représentent pas la France, puisque la somme des votes pour les deux candidats ne totalise que 51% des suffrages exprimés, et seulement 36,7% des inscrits. Ce qui signifie que 2/3 de nos concitoyens n'ont pas voté au premier tour pour l'un ou l'autre des deux finalistes.
Alors,
deux autres France manquent donc pour comprendre l'état politique du pays.
De quelle France s'agit-il?
Eh bien la première, c'est celle des électeurs de gauche, dont les votes se sont portés sur les 6 candidats qui représentaient cette famille politique au premier tour et qui a réuni 32% des exprimés et 23% des inscrits. Rappelons à ce titre que la gauche demeure en pole position des votes du 10 avril à égalité avec les candidats d'extrême droite, ce qui laisse imaginer ce qu'aurait pu être cette élection si ces troupes s'étaient réunies derrière un seul candidat.
Et il y a aussi les abstentionnistes dont nous avons déjà parlé tout à l'heure.
Eh bien précisément, cette France-là sera dimanche. On le sait, on le dit très souvent, l'arbitre du match entre les deux finalistes. Cette France, elle regroupe à la fois des citoyens qui ne votent pas et n'ont jamais voté, trop exclus socialement pour se sentir concernés par la politique, mais aussi, et de plus en plus, des citoyens conscients et informés qui refusent le choix qu'on leur propose entre deux candidats dans lesquels ils ne se retrouvent pas. Et il faudrait ajouter à ces abstentionnistes tous les Français qui voteront sans y croire pour faire barrage à l'un ou l'autre des candidats, ou encore parce que voter est un devoir à défaut de générer un espoir. Cette France-là, elle rêve d'un système politique différent, plus démocratique et moins caricatural dans les oppositions qu'il dessine.
Est-ce qu'on peut imaginer que son appel sera entendu par le vainqueur de dimanche soir ?
Rien n'est moins sûr. D'abord parce que les deux candidats ont une vision assez instrumentale des institutions. Celles-ci servent essentiellement à conforter leur pouvoir. Par exemple, l'arme du référendum brandie par Marine Le Pen n'est que le moyen pour elle d'enjamber le Parlement et les corps intermédiaires sur le chemin d'un pouvoir plébiscitaire, voire autoritaire. Pour Emmanuel Macron, dans la pratique verticale et solitaire du pouvoir a pourtant été durement critiquée, il ne semble pas avoir pris la mesure de la volonté de changement. On ne soignera pas la fatigue démocratique par quelques conventions citoyennes ou un passage au scrutin proportionnel d'ici 5 ans. Notre pays a besoin d'une véritable refonte institutionnelle, aussi bien dans le pouvoir donné au président au Parlement que dans l'équilibre entre les prérogatives de l'État central et celui des territoires, ou encore le mix entre démocratie directe et démocratie représentative. En l'absence d'une telle réflexion et de telles réformes, la France des mécontents pourrait bien faire payer très tôt dans la rue à l'élu de dimanche soir, quel qu'il soit, l'enfermement de nos concitoyens dans deux France auxquelles personne ne croit plus.
Merci Vincent Martini-Bas. Vous vous rejoignez tous les deux avec François-Mickey Marty pour nous dire qu'effectivement cette élection, elle va pas forcément résoudre tous les problèmes du pays. François-Mickey Marty.
Alors on peut dire que c'est inquiétant.
c'est
inquiétant conjoncturellement et c'est inquiétant, alors on peut dire des grands mots, mais structurellement aussi. C'est-à-dire qu'au fond, élection après élection, l'enthousiasme fléchit. Ce que vous dites est très juste. Il y en a deux finalistes qui ont été choisis au premier tour par un tiers des Français, donc on voit bien qu'il y a un problème quelque part. Et au fond, élection après élection, privilégiant le court terme, on a du mal au fond à prendre le recul nécessaire et à refonder peut-être, à faire ce travail de refondation, qui est un travail de refondation démocratique institutionnelle, mais aussi qui doit se faire en relation avec la nouvelle modalité d'existence de la société, le nouveau clivage de la société, les nouvelles volontés d'expression dans la société. Voilà. Et il se trouve qu'avec Mariette Darigrand, nous avons écrit un livre en 2002, alors je crois que c'était il y a 20 ans.
Mariette, bonsoir. Elle est rentrée dans le studio entre-temps.
Voilà, bonsoir,
sémiologue, Mariette Darigrand. Je précise, fondatrice de l'Observatoire des mots et du cabinet des faits et des signes. Mariette Darigrand, oui. François-Mickey Marty, je vous laisse poursuivre.
Donc, ce livre s'appelait à l'époque... n'est pas une publicité du tout, mais ce livre s'appelait « La France blessée ». C'était en 2002. Aujourd'hui, on pourrait écrire « La France à nouveau blessée », peut-être dans 20 ans, on écrira encore « La France blessée ».
Donc, il serait temps de la soigner, c'est ça?
Ça laisse le temps de la soigner. On voit bien, mon hypothèse, ce n'est qu'une hypothèse, mais c'est que les mécontentements peuvent s'accumuler jusqu'au point qu'un jour... des candidats vont dire il faut faire quelque chose. C'est-à-dire, au fond, plus la colère monte, les colères montent, et plus, au fond, un retournement peut se... Mais, à minima, on ne peut pas dire qu'on va continuer avec ces niveaux d'insatisfaction, et puis avoir une démocratie qui poursuit sa petite vie avec les règles du jeu actuelles, et puis les manières de procéder, y compris en termes de campagne électorale, telles qu'elles existent aujourd'hui, je crois.
Alors, on va évidemment poursuivre la réflexion sur tous ces sujets, mais on va d'abord faire un petit point sur le débat d'entre deux tours. On ne peut pas dire qu'il ait fait vraiment recette. 15 600 000 téléspectateurs, c'est pas
si mal quand même.
C'est pas ce qu'il y a de mieux, mais vous dites que Vincent, que c'est pas si mal.
15 millions de personnes, c'est quand même un quart des Français qui regardent un débat à la télévision, c'est quand même pas si mal, même si c'est moins que les autres années.
Alors, on va en parler, mais je voudrais d'abord qu'on aille à Aurillac. Benjamin Illy était sur place et il a recueilli le lendemain du débat les impressions de quelques habitants.
Bonjour monsieur. Vous nettoyez les rues?
Nous, on nettoie les rues. Oui.
Ouais. Bon, je fais un peu le tour d'Aurillac là, pour savoir si les gens ont regardé le débat présidentiel hier.
Les deux, c'est pas mon truc. Mais il y a eu des questions sur les gilets jaunes. Il y a quelqu'un qui a sorti ça. Lui, il n'en a pas parlé des gilets jaunes.
Vous êtes gilet jaune, vous?
Ah ouais. Ben, je trouve que Marine Le Pen, elle a vraiment changé de 2017. Son comportement, cool sur le fauteuil, pas énervé, rien.
Et Emmanuel Macron?
Ouais, lui, impeccable. Ouais, il savait ses trucs, quoi. Mais la Marine aussi. Mais en même temps, je regardais pas que ça, je regardais les matchs de la Ligue 1.
Et donc le Chiquito, c'est là? Cherche des gens qui ont regardé le débat.
Ah, j'ai regardé, ouais.
Alors?
Je me suis emmerdé, vraiment.
Ah bon, d'accord. Ça vous a éclairé un peu, quand même?
La banque en Russie. Vous vous présentez aux élections présidentielles en France, vous empruntez en France ou en Europe, quoi, je veux dire. Vous n'allez pas en Russie, quoi.
C'est quoi le titre du journal?
Tous les opposent.
Tous les opposent.
Macron, Le Pen. Alors, vous vous appelez Yves et vous avez quel âge?
61 ans. Je suis commerçant. J'ai trouvé le débat triste.
On tirait quelle conclusion?
Pas grand-chose. L'expérience de Macron. Moi, je pense que Marine Le Pen a été marquée par son débat en 2017. Et là, elle a voulu jouer une carte tranquille, douce, mais bon, pas assez offensive pour moi. C'est pas ma candidate, mais non, c'était triste.
J'ai besoin de votre prénom.
Pascal.
57 ans, vous êtes dans l'artisanat. Vous avez regardé le débat ?
Si, je l'ai regardé.
Et alors ?
Deux parties, le bas et le haut. Le Pen près du peuple, dans le sens assez populiste, on va dire. Et lui, un technocrate dans ses hauteurs. Alors, très brillant, voilà, connaissant ses sujets sur le bout du doigt, mais assez désinvolte, j'ai trouvé.
Et vous, entre le bas et le haut, vous êtes où ?
Non, je ne me les retrouve pas du tout.
Malgré tout, dimanche, au bureau de vote.
Oui, 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 je vais voter, oui.
Sans enthousiasme.
Aucun.
Eh bien, au revoir.
Merci.
J'ai besoin d'un bruit de cuillère à café.
Voilà, ça c'était un reportage de Benjamin Illy. Mariette Darrigrand, vous qui êtes sémiologue, vous l'avez regardé ce débat ?
Oui, bien sûr.
Avec attention.
Ah oui,
les mots,
intérêt.
Les gestes, oui. Qu'est-ce qui en est ressorti ?
Ben non, ce qui m'a frappé, c'est qu'on était dans un discours extrêmement réaliste. Quand il n'y avait pas d'imaginaire, pour le dire très vite, il n'y avait pas d'imaginaire, il n'y avait pas de métaphore, par exemple. Or, les métaphores, c'est toujours ce qui fait la démocratie, d'une certaine façon. Enfin, c'est la formule d'un écrivain espagnol, je trouve formidable, qui a beaucoup observé la Movida. Il dit, c'est le choix des bonnes métaphores, hein, les images collectives que l'on partage. Et là, il y en a eu deux minuscules. Hein, à un moment donné, Marine Le Pen a dit qu'elle voulait recoudre le pays, ce qui aurait été intéressant. Et Emmanuel Macron, l'a ripolliné la façade. C'était très pédagogique quand il a dit que sur l'Europe, on ne pouvait pas faire cavalier seul. C'est comme une réunion de copropriété. Mais enfin, on est dans le domestique. Or, on a bien vu tout à l'heure que le corps social, lui, il est dans l'épopée. Il est dans quelque chose parce que nous vivons un moment de transition, comme on dit, très historique, hein, en dehors même de la guerre actuelle. On sait que le monde est instable et le monde est difficile et demande des qualités plus que la moyenne. Pas, voilà. Les gens le savent. Donc, ils ont besoin aussi que le politique se mette à ce niveau. Or, le choix qui a été fait par les deux candidats, a été d'éteindre l'imaginaire.
Parce qu'ils étaient quoi, dans la retenue tous les deux et chacun avait peur à sa façon ?
Je pense qu'ils avaient pas, ils avaient un intérêt convergent, d'une certaine façon, où ils l'ont cru. Bah, Emmanuel Macron est excellent. C'est un techno et il est très compétent. Donc il fallait qu'il mette le discours sur ce terrain-là. Et dans ce cas-là, on écrase le projet. Il n'y a plus de projet. Le mot société n'a pas été employé, par exemple. C'est drôle. Mais on a un programme et des listes. C'était la liste, c'était la rhétorique de la liste. Et je dois dire que quand même, l'organisation par les journalistes des sujets a joué aussi beaucoup quand même. Ça a coupé complètement, tout envolé lyrique. Donc lui, il avait intérêt. Et Marine Le Pen, je pense qu'elle a fait une erreur parce qu'elle a écrasé sa colère. Elle a une arme.
Elle avait peur d'être trop énervée, d'être
oui,
trop dure.
Elle a confondu l'agressivité avec ce qui lui était arrivé en 2017, qui n'était pas tant qu'elle était agressive, c'est qu'elle avait à un moment donné dérapé, et elle était même un peu régressive, elle était un peu infantile avec ses envahisseurs, etc. Donc elle a eu peur de son propre inconscient, je pense, je suis pas psy, mais quelque chose comme ça. Donc elle a retenu, malheureusement, sa meilleure arme pour elle, qui est la colère, et là, qui est complètement empathique avec le corps social, parce qu'en 5 ans, cette colère a été érigée vraiment en opinion politique.
Vincent Martini, vous êtes d'accord avec ce que dit Marine?
Oui, je trouve ça passionnant parce que je trouve que la sémiologie, la question de la métaphore, j'y avais pas pensé, mais vous avez parfaitement raison. Je trouve que ça apporte un autre éclairage que l'éclairage beaucoup plus froid de la question des programmes, la question des convictions, la question même technique, et qu'on peut être bon techniquement dans le cas du président sortant et en même temps rater quelque chose. Et on voit bien que ce débat, il a été raté des deux côtés, à mon sens. Certes, le candidat Macron, lui, a plutôt dominé techniquement les sujets pour les raisons qu'on connaît, vous l'avez dit. C'est quelqu'un qui vient de l'inspection des finances, qui a 5 ans de pratique du pouvoir. Mais en même temps, cette domination, elle ne s'est pas accompagnée de formes d'empathie ou de formes d'imaginaire qui auraient pu, je crois, donner un supplément d'âme à ce débat. Et quant à Marine Le Pen, c'est l'inverse.
François-Mickey Marty, sur le débat et sur l'image des deux candidats, parce que c'est quelque chose que vous avez étudié de près.
Alors,
aussi.
L'image a été, c'est relativement simple, parce que l'image antérieure a été confortée, c'est-à-dire au fond les traits d'image, notamment concernant Emmanuel Macron, concernant sa compétence, mais éventuellement aussi ses traits d'image arrogants, etc., ont été confortés, et concernant Marine Le Pen aussi, dans sa proximité avec les gens, telle qu'elle la revendique, mais aussi dans ses difficultés, au fond, à assumer un discours véritablement d'exercice du pouvoir. part. Voilà. Ensuite, je rejoins ce qui a été dit sur le côté assez assez technique du débat. D'une certaine manière, on peut dire que l'un et l'autre y avait intérêt. Hein, Emmanuel Macron, parce qu'en effet, il est à l'aise, et puis parce qu'il voulait peut-être attirer aussi Marine Le Pen sur ce terrain-là, en soulignant les contradictions, d'ailleurs, des propositions de Marine Le Pen. Donc, son approche consistait à souligner les contradictions entre différentes thématiques apportées par Marine Le Pen, mais aussi par rapport à ce qu'elle avait pu déclarer par le passé. Donc, on était enfermé sur cette question-là. Et Marine Le Pen peut-être trouvait aussi un avantage à s'inscrire dans des considérations de politique publique pour éviter des considérations beaucoup plus polémiques et qui peuvent se susciter certes de l'adhésion, mais aussi souvent de la désaffection. Donc, l'un et l'autre ont pu y trouver leur compte. Mais en effet, d'une certaine manière, on peut dire l'exercice démocratique n'a pas été atteint. Surtout dans le contexte, je vois ce que disait Marianne Darigrand tout à l'heure, où on attend au fond des visions pour la société de demain. Et je pense que c'est l'un des éléments majeurs. Et puis au-delà de tout ça, on a aussi aujourd'hui, je crois, un personnel politique qui est beaucoup plus porté sur le catalogue des politiques publiques plutôt que sur une vision. On ne va pas comparer par rapport à d'autres candidats lors des élections antérieures, mais on n'a pas non plus le même type de personnel politique. Donc je crois que tout ça contribue en effet à ce que y ait là aussi un débat qui finalement ne bouleverse pas nécessairement la donne, mais qui donne le sentiment, sur le plan démocratique, de ne pas répondre aux espérances qui pouvaient être placées en lui.
J'ai une dernière question, Mariette Darigrand, sur ce que vous êtes sémiologue, sur l'image, la féminité de Marine Le Pen. Elle a beaucoup mis ça en avant, et je voudrais aussi en même temps vous poser la question sur cette fameuse photo d'Emmanuel Macron, chemise ouverte, qu'on a pu apercevoir avec ce torse velu. Comment vous percevez ces deux images, hein, la virilité d'un côté, la féminité de l'autre, ou pas? Alors, ou c'est le contraire?
Oui, c'est ça, voilà, exactement. C'était un peu fluide, là aussi. Mais le vote, pour la première fois, je crois, François, a été masculin-féminin. On voit quand même qu'il y a quelque chose d'un peu genré. Mais alors, ce qui est vraiment amusant pour nous, quand même, c'est que Marine Le Pen, est-ce qu'elle est devenue plus féminine? J'en suis pas sûre. Elle est devenue une mère. C'est pas tout à fait pareil, une mère et une femme. Hein. Et elle avait réussi à faire monter quelque chose d'intéressant pour elle, qui était une protectrice de la nation, quelqu'un qui allait être pacificateur. Mais elle n'en a pas fait une femme puissante, selon l'expression consacrée. Une femme puissante, une mère puissante, c'est une Merkel, par exemple, ou une mère plus moderne, comme Jacinda Ardern en Nouvelle-Zélande, comme on dit souvent. C'est-à-dire une femme qui n'est pas simplement affective, mais qui a aussi la capacité d'avoir un statut. Quant à la virilité d'Emmanuel Macron, qui aurait été montrée par son torse, hein, en particulier à Marseille, je me demande si c'est de la virilité ou quelque chose qu'il a intérêt à montrer toujours, qui est plutôt l'incarnation. Parce que comme il est un peu pur esprit, et quand il est avec sa belle chemise blanche et qu'il parle, il est christique pratiquement, hein, il est vraiment, c'est le double corps du roi, comme on sait. Donc, il est déjà un petit peu dans les nuées, dans les limbes. Il n'est pas comme nous, mortel. Donc, je crois qu'il le sait, ça, évidemment, et qu'il a voulu, et c'était aussi sa mimique, sa posture un peu négligée par moment, je crois, voulait dire, je suis comme tout le monde. Ça se voit, mon corps, quand j'ai chaud, quand j'ai des humeurs incarnées, banales, lambda. Je crois que c'est très intéressant du point de vue du régalien, justement, c'est qu'au lieu de s'anoblir, lui, il sait qu'il faut qu'il se charnalise, comme on disait au XVIe siècle.
Vincent Martini.
Oui, je suis complètement d'accord. Ce que je trouve intéressant, c'est que chez Macron, c'est toujours aussi un peu forcé. C'est en fait, on le monte, mais tout d'un coup, on découvre qu'il a une espèce de tonsure très très abondante, ce qui est un peu amusant, qui a fait évidemment toute une série de
mèmes sur les réseaux
Twitter,
sociaux. Oui,
sur les réseaux sociaux, ça a beaucoup plu. Et de la même manière, je fais un lien entre ce que vous disiez et les expressions qu'il utilisait dans le débat d'entre-deux-tours. Gérard Majax, sur les expressions comme hier pour Dopalin Pimpin, Ripolliner, la façade. Des expressions qui sont censées fleurer bon le populaire, pas au sens méprisant, mais au sens comme je parle comme tout le monde, sauf qu'il parle comme un tout le monde qui n'a pas son âge non plus. Donc à chaque fois, il est toujours un peu à côté.
François-Mickey Marty, peut-être question aussi sur les mots de cet entre-deux-tours. Il y a quelque chose qui est intéressant, c'est que chacun a essayé de retourner le vocabulaire de l'autre. Enfin, c'est une impression que vous allez me confirmer ou pas. Par exemple, on a entendu Emmanuel Macron, pas plus tard qu'aujourd'hui encore, parler de référendum contre l'Europe, contre la France, à propos de Marine Le Pen, qui, elle, parle de la brutalité de son adversaire et se place du côté des plus vulnérables. Qu'est-ce qu'ils ont essayé de faire, là, tous les deux?
Oui, alors, c'est une très bonne question, si je puis me permettre, un jugement. Oui, ça révèle, parce qu'on pourrait en parler très longtemps, ça révèle la difficulté à embrasser la France, pour dire les choses simplement, pour l'un comme pour l'autre. Et ce que vous dites est très juste, c'est-à-dire que les extraits que vous diffusiez tout à l'heure, on entend Emmanuel Macron parler à deux reprises de bienveillance, et puis Marine Le Pen parle pour sa part de l'humain. Bon, l'un est avec tous, pour tous, et Marine Le Pen prétend parler au nom du peuple, etc. Et ça apparaît aussi comme une quête quasiment effrénée, sinon vaine, pour au fond être le porte-parole, l'incarnation d'une France qui ne répond pas bien. Alors ça tient au facteur qu'on évoquait tout à l'heure, le fait que l'un et l'autre soient liés au premier tour par une minorité de Français, etc. Mais plus fondamentalement, je crois que ça porte la question de qu'est-ce que ça veut dire être président de la République aujourd'hui. C'est-à-dire, est-ce que cet homme ou cette femme doit être le porte-voix de 48 millions de citoyens. Est-ce que il y a une possibilité, même au-delà de la légitimité, une possibilité à au fond à être le porte-parole et le titulaire ultime de la souveraineté pour la plupart des Français en entendant parler au nom du plus grand nombre. Sauf que cette élection à deux tours, il faut fédérer la moitié des gens. Donc vous êtes un peu coincé. Donc le système actuel et le mode de scrutin contraint d'une certaine manière à poursuivre cette quête de fédération extrêmement large dans un contexte de société où chacun dit moi je suis différent de toi.
Alors il y a la présidentielle, il y a le deuxième tour, ça c'est dimanche, et puis il y a les législatives après. On assiste à quelque chose d'intéressant avec la demande de Jean-Luc Mélenchon de, en gros, faites de moi le Premier ministre, Vincent Martini. Est-ce que vraiment, au vu du paysage actuel, on peut imaginer qu'il va se passer quelque chose au moment des législatives qui pourrait nous entraîner vers un début de commencement de régime un peu plus parlementaire?
Non. A priori, ça m'étonnerait. Tant qu'il n'y a pas de réforme institutionnelle, je pense qu'on s'oriente plutôt, si Marine Le Pen gagne là, vers un chamboule-tout qui va mener à un avenir qui est difficile d'imaginer et de lire à présent, parce qu'on n'a pas assez d'éléments. Si c'est Emmanuel Macron qui devait être réélu, vers probablement une coalition, soit majoritaire avec La République En Marche, et soit Les Républicains, soit vraisemblablement le parti Horizon d'Édouard Philippe, mais donc des coalitions plus classiques. Moi, j'ai du mal à croire au sursaut, tout d'un coup, à la revanche en cas de réélection du président sortant, d'une gauche qui, tout d'un coup, deviendrait majoritaire. Surtout que chez Jean-Luc Mélenchon, il y a une volonté de faire un peu le buzz. Le jour du débat, c'est pas un hasard. S'il fait cette interview, il avait fait la même chose il y a 5 ans. Je crois que c'est une façon d'attirer l'attention alors qu'il est exclu du deuxième tour. Je crois pas que là, ici, il y a une vraie croyance dans son cas à lui qu'il est possible que la France Insoumise forme à elle seule une coalition majoritaire. Encore une fois, il faudrait déjà qu'il s'entende avec ses alliés de gauche.
François-Mickey Marty, les législatives ne vont pas changer
le scénario que l'on connaît, qui est le plus probable. En fait, c'est une reconduction, l'élection d'une majorité pour le président sortant. Mais le fait qu'on se pose la question en soi est très intéressant. C'est-à-dire, au fond, ça dit quand même qu'on a changé d'époque. Alors, ça tient au fait aussi que les clivages politiques ont évolué, qu'on n'a plus un candidat de gauche ou un de droite, mais que d'autres candidats se positionnent différemment. Ça tient au ressentiment démocratique que l'on évoquait tout à l'heure et à la capacité très rapide, potentiellement, de mutation des comportements électoraux. Donc, le fait qu'on se pose cette question-là, ça dit beaucoup de choses, au fond, précisément, sur cette fluidité démocratique. Et alors peut-être que ça ne se produira pas cette fois-ci, mais ne l'excluons pas pour d'autres scrutins. C'est-à-dire que ça n'est pas nécessairement parce que Emmanuel Macron choisit ou Marine Le Pen choisit parce qu'il est Emmanuel Macron ou parce qu'elle est Marine Le Pen, ça ne sous-tend pas nécessairement des clivages idéologiques extrêmement forts. Donc ça veut dire que le jeu est peut-être plus ouvert pour l'avenir qu'il ne l'est aujourd'hui.
Et en tout cas, si je vous ai bien entendu, il y a urgence à y réfléchir, parce que le pays ne va pas forcément très bien. Il y a plus que 10 secondes, Vincent Martini.
Ce qui est sûr, c'est que les législatives auront un rôle qu'elles n'avaient pas en 2017. Les choses ne seront pas aussi claires qu'en 2017, ça c'est sûr.
Et ce sera le mot de la fin. Un très grand merci, Vincent Martini. Mariette Darrigrand, merci mille fois aussi. Et à vous aussi, François-Mickey Marty.